France Musique. France Musique, les grands entretiens, François-Xavier Chemchak.
Je m'appelle Cyril Huvet, je suis né le 9 février 1954 à Paris, je suis pianiste.
Bonjour Cyril Huvet.
Bonjour François-Xavier.
Et merci d'être venu jusqu'à nous ici à Radio France pour cette série de grands entretiens qui vont nous permettre de faire plus ample connaissance avec vous à travers votre carrière, votre formation, notamment auprès de Claudio Arao, votre répertoire, votre discographie, votre passion pour les pianos anciens que vous développez dans votre propriété du Berry, la Grange au piano, votre passion pour les grands compositeurs, pour les interprètes d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi votre passion pour la radio. Je sais que vous êtes depuis longtemps un fidèle auditeur de France Musique et notamment de ces grands entretiens. Je voudrais savoir ce qui vous plaît dans ce genre d'émission.
Je trouve que c'est intéressant de suivre le parcours de quelqu'un, peut-être de découvrir autrement que l'image qu'on en a, de parcourir des époques qui ont changé, d'avoir une vision de la vie musicale à travers l'histoire récente, en fait. Parce que il est vrai que on a souvent sur les grands compositeurs, voilà, de l'historique, sur l'histoire de la musique officielle, et là c'est un peu l'histoire de la société qui est dans la musique, mais tout ce qui se passe, qui est très très varié, avec beaucoup de ramifications, donc c'est un tableau d'une époque, par petites touches, voilà, il y avait portrait par petites touches, c'était une émission de radio d'ailleurs, je crois.
Ces grands entretiens, c'est quelque chose qui vous fait peur aussi ?
Eh ben oui, sûrement, c'est assez troublant en fait, parce que c'est tout un retour sur soi, donc. Et puis, c'est aussi une cure de jouvence, parce que on se dit que, voilà, à partir de ça, on peut faire la synthèse personnelle, et j'espère en tirer quelque chose de nouveau pour soi-même dans la suite.
Alors justement, vous avez été producteur d'une émission sur France Musique, sur laquelle on reviendra plus tard, Vieillissir, dans les années 70. Mais c'est à l'auditeur que vous êtes que j'adresse cette question. Quels sont vos premiers souvenirs de France Musique, de radio ?
Ben disons aussi la radio, c'était une affaire de proximité puisque j'habitais finalement à côté, donc j'y suis venu adolescent en fait. À l'époque, on rentrait très facilement dans la maison de la radio, c'est plus du tout le cas. Je venais en voisin, il suffisait de descendre un peu la rue de Boulainvilliers, j'ai presque vu construire en fait, puisque ma première professeure de piano était en bas de la rue de Boulainvilliers, et donc elle disait que c'était d'abord une usine à gaz, je crois, enfin c'était un site industriel, une friche industrielle, qui a été, et la maison de la radio a été inaugurée en 1963. Et donc moi je suis né en 1954 et j'ai pris mes premiers cours de piano, disons en 61, juste à côté de cette maison de la radio qui était en train de finir de se construire. Et alors une émission évidemment qui m'a beaucoup formé, c'est la Tribune des critiques de disques.
Une émission historique, voilà. Présentée aujourd'hui par Jérémy Rousseau.
Voilà, et à l'époque par Armand Panigel, avec Antoine Goléa, Jacques Bourgeois et quelques autres invités parfois. C'est vrai que c'est une émission qui m'a beaucoup éveillé à certains pianistes, par exemple Arthur Schnabel. Voilà, j'ai découvert Arthur Schnabel grâce à cette émission, parce que il revenait régulièrement, alors on a envie d'aller voir de plus près qui c'est.
Souvent, ces grands entretiens se déroulent à domicile. Là, nous sommes dans un des studios de ce qui s'appelle désormais la maison de la radio et de la musique. Vous n'êtes donc pas à domicile, Cyril Huvet, mais vous êtes quand même un peu chez vous, dans cette maison et dans ce quartier d'Auteuil. Vous venez de dire que vous êtes né en 1954 et en rentrant dans cette maison de la radio, je vous ai montré un objet que vous ne connaissiez pas. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ?
Alors voilà, il s'agit de la première pierre de la maison de la radio qui a été posée par René Coty en novembre 1954.
Vous êtes né à Paris, dans quel quartier ?
Eh bien, à côté d'ici, voilà, j'habitais de rue des Vignes. J'ai toujours été dans ce quartier, en fait.
Cyril Huvet, comment vos parents se sont-ils rencontrés ?
D'après ce que j'en sais, mon père allait attendre ma mère devant le lycée Victor Duruy et il l'a séduite en lui jouant un peu de piano parce qu'il avait deux grands morceaux. C'était le premier mouvement de la sonate au clair de lune.
De Beethoven.
Clair de lune de Beethoven et le clair de lune de Debussy. Je crois que son répertoire s'arrêtait là, mais ça a dû être bien.
Donc on peut dire que vous ne seriez pas au monde sans cette musique. Vous êtes né grâce à la sonate au clair de lune de Beethoven.
Ou au son de la sonate au clair de lune.
Votre famille, est-ce qu'on peut dire que c'est une famille de musiciens, de mélomanes, du côté de votre père, de votre mère ? La musique était présente par un piano à la maison, par exemple ?
Oui, par un piano. Dans mon enfance, j'ai beaucoup accompagné ma mère, en fait, dans des œuvres qu'elle chantait, comme ça, voilà, pour le plaisir. Donc, je l'accompagnais le soir quand elle rentrait du bureau. On a fait des séances de chant et piano très souvent, voilà. Donc, ça doit venir de là, je pense.
Qu'est-ce que vous chantiez avec votre mère ?
Du Rossini, du Schubert, du Mozart, des...
Une voix de soprano, mezzo.
Soprano, voilà, soprano tout à fait amateur. Voilà, c'était pour le plaisir.
On peut dire que c'était votre première expérience musicale, vous qui avez accompagné des chanteurs professionnels pour les leaders de liste, c'était avec votre maman, quoi.
Des souvenirs de Rossini, d'extraits d'opéra, de Manon, voilà, Adieu notre petite table, de Massenet, qui nous réunit si souvent.
Quand est-ce qu'elle a appris la musique ?
Dans son enfance, elle avait un professeur de chant qui organisait une audition chaque année et qui avait même, à l'époque, on enregistrait parfois les auditions en 78 tours. Donc j'ai un petit 78 tours avec deux mélodies, Mon cœur soupire de Mozart, Voi che sapete de Così fan tutte, et l'autre côté, je ne me souviens plus.
Mais 78 tours avec la voix de votre mère ?
Oui, 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 oui. Et 78 tours individuels. Je crois qu'elle m'a raconté, oui, c'est ça, un monsieur qui venait avec tout un matériel d'enregistrement et qui enregistrait l'audition de fin d'année de ce professeur sur support 78 tours.
Dans Mon cœur soupire de Mozart.
Et alors, 1954, c'est une date importante pour nous, puisque sur une idée de Jean Tardieu, on crée le programme musical à modulation de fréquence qu'on baptisera France Musique en 1963 pour l'inauguration de cette maison. Donc vous avez, entre guillemets, le même âge que France Musique et que Radio France.
Oui.
Quel souvenir vous avez de ce quartier d'Auteuil dans lequel vous avez grandi, c'est ça, pendant les années 50 ?
Moi, j'ai une enfance que je trouve rétrospectivement très heureuse et un moment béni, en fait.
Et la première fois que vous êtes rentré à Radio France ?
Alors, la première fois, donc je suis allé souvent au concert au Studio 104 ou à l'Auditorium 104. Donc, ça m'a permis d'écouter l'Orchestre National avec Jean Martinon. Les premiers concerts où je suis allé, c'est en 1964, disons. J'ai entendu l'Orchestre National, souvent. Et puis, aussi au Théâtre des Champs-Élysées, en fait.
Donc là, vous aviez 10 ans, quoi.
10 ans, voilà. C'était les premiers concerts au Théâtre des Champs-Élysées. Donc, je garde un grand souvenir, parce que c'est quand même... C'est vrai que... C'est peut-être parce que je suis allé là au début, mais c'est quand même toujours sur l'acoustique que je préfère. C'est un bonheur de rentrer au Théâtre des Champs-Élysées. C'est quand même un endroit où il y a une ambiance unique en son genre.
La musique était présente à la maison, par exemple ?
Oui, par un piano, et puis par le fait qu'on a fait commencer le piano avec une professeure qui habitait donc en bas de la rue de Boulainvilliers et qui était une pianiste basque, qui s'appelait Koza Latapi. et qui a été à Paris, donc qui avait été une ancienne répétitrice de Marguerite Long. Et qui avait suivi des cours d'Yves Nat, qui d'ailleurs, Yves Nat habitait aussi à côté de la place Chopin, pas loin de la maison de la radio, donc dans ce périmètre, en effet, aussi où habitait donc Gabriel Fauré. Et dans ma famille, ça a été en fait une proposition qui m'a été faite de jouer du piano, et tout de suite, c'est devenu très, très immédiat, quoi. Enfin, assez intuitif.
Vous vous souvenez des premières œuvres que vous avez jouées, les premières partitions que vous avez travaillées, cette professeur basque?
Basque, m'a fait travailler des 100 exercices de Czerny, ça c'est très bien. Et puis, différentes choses, de Mazurka de Chopin, des Vals, la Molinara de Beethoven, enfin des Hummel. Je pense que après c'était difficile de me décrocher du piano. En fait, j'étais très accroché tout de suite. Et puis c'était un rapport avec cette femme aussi très proche. Enfin, ces sons de piano étaient vraiment formidables, quoi.
France Musique, les grands entretiens de Cyril Huvet.
Cette professeure basque-là, Kozala Tapi, voulait absolument que je rentre au conservatoire. Et donc, mon grand-père n'a pas voulu. Donc, je suis resté au lycée. Et
pourquoi il n'a pas voulu?
Parce qu'il pensait qu'il fallait que je fasse autre chose. Donc, c'était...
Qu'est-ce qu'on voulait pour vous?
Sans doute que je sois ingénieur comme lui, ou enfin voilà, que je fasse un métier sérieux.
Et donc, vous êtes un peu battu?
Voilà,
famille,
j'ai eu beaucoup de possibilités par la famille d'avoir les moyens de connaître la musique, mais en même temps, je suis resté toujours au lycée. C'est vrai, je crois que ça joue beaucoup. Il y a des générations qui ont été scolarisées ensemble au conservatoire, qui étaient tous très jeunes, en fait, qui avaient 12, 13 ans, 14 ans, qui ont fait toutes les classes du conservatoire et qui se connaissent depuis cet âge-là, qui ont été comme des camarades de lycée, en fait, de collège. Donc, c'est leur vécu. Ça reste toujours. Et moi, je suis à côté. Voilà, j'étais à côté, j'étais lycéen par ailleurs, et fier de l'être, et très heureux de l'être, mais étant un peu celui qui faisait de la musique parmi ses camarades.
Avec des avantages et des inconvénients?
Voilà, des avantages et inconvénients, parce que. Alors, je suis allé aussi très tôt, finalement, je sais plus très bien quand, mais à des cours de musique de chambre. Je faisais beaucoup de musique de chambre. J'avais un ami violoncelliste qui habitait dans la rue adjacente, donc qui est devenu violoncelliste professionnel, qui m'a invité à aller en Suisse, à Lassage, dans la vallée des Volaines, où se trouvaient Henri Dutilleux et Geneviève Joie, qui avaient un chalet là, qui passaient leur l'été. C'est à peu près là que Dutilleux a composé les Métaboles.
65,
voilà. Et donc là, il y avait le violoncelliste André Lévy, qui était professeur à l'école normale, donc qui était le professeur de mon camarade Jean de Spengler. Et puis j'ai connu là Christian Ivaldi, qui venait aussi pour les vacances d'été. Donc c'est une autre façon que la façon scolaire, mais c'était des premières expériences marquantes, parce que j'étais sympathisé beaucoup avec Geneviève Joie, qui était formidable. Voilà, donc c'était mais c'était pas dans un cadre professionnel.
Oui, n'empêche que cet environnement avec Dutilleux, Geneviève Joie et Ivaldi vous a confirmé dans votre détermination d'aller de l'avant.
Tout à fait.
C'était vraiment le métier. Il n'y a pas d'autre métier que vous aviez envisagé, en fait.
Oui, en fait, voilà, exactement, oui. Dans mon cas, je dirais que j'ai eu beaucoup d'opportunités et de chances, très jeune, de m'approcher de la musique classique et de faire un parcours en fait d'apprentissage assez différent de celui qui est le parcours scolaire. C'est un parcours personnel, en fait, vers la musique. Et puis, alors, j'avais eu l'opportunité de rentrer dans la bibliothèque de la radio, où on m'accueillait, sans aucun statut particulier, comme enfant.
Vous avez quel âge, là?
12 ans, 12, 13 ans. J'avais l'opportunité de faire des recherches dans les rayons de la bibliothèque, de lire des livres pendant toute la matinée, de recopier des partitions à la main, parce que souvent il y avait des partitions qui n'étaient pas éditées ou enfin qu'on trouvait pas forcément. Donc par exemple, même les dernières œuvres de Liszt, par exemple, je les ai recopiées à la bibliothèque de la radio, parce que je pensais, moi, qu'on pouvait pas les trouver dans le commerce, mais sans doute c'était des éditions anglaises, par exemple. Donc il y avait quelques volumes de dernières œuvres de Liszt qui étaient un peu des raretés, donc je les recopiais. Et puis il y avait beaucoup de livres aussi sur la musique contemporaine et la musique de l'entre-deux-guerres. Donc il y avait des articles souvent assez critiques sur les festivals de la SIMC, où on créait l'Équateur de Bartok, de Schoenberg, de Hindemith, et des critiques divergentes. Donc j'avais accès à tout ça, en fait. Il y avait des grandes partitions d'orchestre qu'on venait de créer à Royan ou ailleurs, que je pouvais regarder, quoi. C'était très intéressant.
Un autre pianiste qui vous a formé à cette époque, qui s'appelle André Krust.
Voilà, alors lui, je l'ai connu juste après avoir passé mon bac, et c'est lui un peu qui m'a mis sur les rails, qui m'a dit il faut travailler de telle et telle façon, et c'est lui qui m'a présenté au conservatoire pour entrer ensuite après le bac.
Vous pouvez nous rappeler qui est André Krust? Alors, vous disiez accessoirement que c'était le professeur de piano de notre chère Judith Chen.
Oui, exactement.
Bah alors, qui c'était d'autre que...
Il a été un des premiers à travailler l'intégralité de l'œuvre de Schumann et à l'enregistrer. Et il a aussi créé une œuvre de Jean Baraquet qui s'appelle Chant après chant. Enfin, il a une carrière importante.
Et qu'est-ce qu'il vous a apporté, André Krust?
Alors, il va sans doute apporter plus de méthodes de travail, de définition de la technique du piano, beaucoup d'exigences et d'enthousiasme aussi. Il m'a conforté dans l'idée que je pouvais faire ça bien.
Vous aviez des doutes à ce sujet?
Oui, forcément. Mais enfin, il a estimé qu'il fallait vraiment me faire ça et qu'il fallait me pousser en avant, rentrer dans le cadre officiel du conservatoire.
Et à ce moment-là, Cyril Huvet, quel était le parti de la famille?
Entre-temps, mon grand-père était mort, donc c'était aussi plus facile. Période donc à la radio, qui était aussi une chance, c'est justement Pierre Wozzinski a fait venir Tchelibidak pendant 2 ans comme patron de l'Orchestre National. Et donc j'ai pu, comme j'étais à côté finalement, venir très facilement écouter toutes les répétitions des programmes qui montaient au studio 103, donc qui est devenu une partie de l'auditorium maintenant. Et alors ça, c'est une grande expérience d'avoir entendu le son de l'Orchestre National. modelé par Tchéli Bidac, c'était pour moi une expérience fondatrice. C'est des moments très très forts, quoi. Le son de l'orchestre devenait transparent, vibratile, fluide, les équilibres des graves et des aigus, les harmoniques des instruments graves viennent masquer souvent les parties intermédiaires. Donc le gros travail de Tchéli Bidac, c'était d'équilibrer vraiment ce médium, en fait, d'avoir une sorte d'appréhension du son qu'après il a développé dans ses théories de la phénoménologie. Mais déjà, c'était le fait de le sentir en vrai, quoi, d'en faire l'expérience et de pouvoir faire l'expérience pas seulement au concert, mais en suivant deux ou trois répétitions jusqu'au moment du concert.
Après Jean Chontsaï, c'est un autre établissement qui vous ouvre les portes pour des classes préparatoires. Vous arrivez à Henri IV, c'est ça ?
Oui.
On peut dire que vous avez été un brillant élève ?
Ben, j'espère, oui. Peut-être.
Brillantes études.
Oui. Et puis, donc, après, j'ai été au lycée de la Canale pour une deuxième cagne.
Là, vous étiez encore déterminé à être musicien, mais oui. Malgré tout, reste sur des études quand même très exigeantes. Oui. Henri IV, la Canale, ça veut dire que votre emploi du temps est particulièrement chargé à ce moment-là.
Et oui, mais à la Canale, comme j'étais interne, il y avait un piano droit dans le grenier, donc ça me permettait d'aller travailler le soir. Et c'est là, vraiment, j'ai décidé de passer au conservatoire.
Et il y a des études de philosophie également. À Nanterre, qu'est-ce que ça vous a apporté, ces études de philosophie, à vous, personnellement ?
Ça m'a apporté d'être moi-même. Moi, c'était beaucoup la philosophie de la connaissance, Descartes, Spinoza, Leibniz, après Kant. Enfin, moi, c'était très, très classique, finalement. Et puis, Patrice Loreau était un philosophe qui a travaillé sur les grands renversements qu'il y a eu de la pensée contemporaine, Nietzsche, Freud et la suite, qui ont bouleversé les fondements sur lesquels la stabilité de la connaissance. Et finalement, voilà, la philosophie, peut-être c'est la chose de base, c'est de passer de la stabilité à l'instabilité. C'est-à-dire de questionner, c'est le questionnement qui fait que rien n'est acquis une fois pour toutes, qu'il faut mettre en doute chaque élément de la connaissance. Oui, la musique apporte une émotion qui fait vaciller le socle de la certitude.
L'intermezzo en mi majeur, extrait de l'opus 116 de Johannes Brahms, c'était Cyril Uvé, enregistrement utilisé dans la bande originale du film Le Hussard sur le toit de Jean-Paul Rapneau. Demain, suite de nos grands entretiens avec le pianiste qui nous parlera notamment de Claudio Arrau.
À réécouter sur francemusique.fr.